on s'en va dans Romains chapitre 6. Jean 6 ce matin, Romains chapitre 6 après chapitre. J'ai ça, le chapitre. Romains chapitre 6. Aujourd'hui, le chiffre du jour, c'était le chiffre numéro 6. J'espère que c'est pas de mauvaise augure. Mais on n'est pas. Quelqu'un m'a demandé ça aujourd'hui. Ah, tu crois de ça, les superstitions? Non. De toute façon, c'est ce que j'ai répondu. Il y en a tellement dans le monde que je pourrais pas. Tu sais, il y en a qui disaient. Quand tu passes une traite de chemin de fer, tu peux te lever les pieds. Sinon, je sais pas trop ce qui va t'arriver. Puis là, tu sais, il y en a tellement de superstitions dans le monde. Puis tu vois, d'un pays à l'autre, il y en a toutes des différentes. Maintenant, on vivrait sur un espèce d'état de panique de se demander ce qui va arriver. Fait que je rejette l'ensemble de l'œuvre. Et je me confie dans mon Seigneur et mon Sauveur qui, lui, sait exactement ce qu'il fait avec moi. Puis il va avoir un chat qui se promène en dessous d'un escabeau, ça ne l'énerve pas bien.
Mais plus qu'une fois par jour, des fois.
Ah, puis ça, c'est que ça veut dire, ça?
Bien sûr. Ben, l'oiseau qui vient frapper une vitre, qui s'assomme ou qui se tue dans...
Ça veut dire que quoi, tu vas mourir dans les trois prochaines heures?
Ça fait longtemps que je suis mort.
Oh! Ben, t'as vu, t'es vivante par la grâce de Dieu. Malgré tous les oiseaux qui se sont pétés la margoulette. Ben c'est ça, la grâce de Dieu est tellement plus grande, puis notre Dieu règne, puis il n'y a pas un pigeon qui peut l'arrêter. Amen. Donc, ce qu'on va faire, on va relire un peu le passage qu'on a commencé à considérer. À partir du verset 12, là, on prend un petit recul pour aller mieux de l'avant. On va lire le passage au complet, ça nous aide à nous remettre dedans. Donc au verset 12, on peut lire Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste un peu de révision, on a vu la semaine dernière, on a vu les versets 12 à 14, mais rappelez-vous vraiment, le verset 14 est tellement important. Il est en plein milieu, on pourrait dire, du chapitre. Sans compter exactement les versets. De toute façon, les versets, si quelqu'un vous dit ça, les versets dans l'original, il n'y avait pas de versets. C'était juste un texte qui continuait. Ça a été rajouté après pour la commodité de la chose. Là, si je vous dirais, tournez à peu près au milieu de Romains, là, on ne met pas de chapitre, pas de verset, ce serait un peu plus compliqué. Fait que merci, Seigneur, qu'on a des chapitres et des versets, mais dans l'original, c'était une lettre. Vous, quand vous écrivez une lettre de cette longueur-là, mettez-vous des chapitres puis des versets? Non, c'est
ça. Mais ça serait quand même pas pire.
Ça pourrait être pas pire des fois quand c'est long. Mais le verset 14, je veux juste un peu faire un rappel, ça va nous aider ensuite quand on va dans les versets 15 et suivants. Lorsqu'on lit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Est-ce quelqu'un qui se rappelle un peu ce qu'on a vu par rapport à ça? Quelque chose qui va en lien avec beaucoup de choses qu'on voit dernièrement, mais l'idée d'être sous la grâce versus sous la loi versus sous la grâce. Rappelez-vous de ce qu'on a dit, un mot qu'on a utilisé, je l'ai encore répété un matin, c'est un mot que je viens sur. Te rappelles-tu, Geneviève? Tu m'es revenu après ça, tu as dit, ça me donne une autre perspective. Le mot contrôle. Parce que quand on est sous la loi, on est au contrôle. Je fais ci, je fais ça, parce que c'est écrit dans la parole. Là, là. Puis quelqu'un qui, au nom de la grâce, fait n'importe quoi, ben, il est aussi au contrôle. C'est juste que c'est lui qui décide ce qu'il veut faire, puis que Dieu n'a pas à y dire. Être sous la grâce, être sous le contrôle du Dieu de toute grâce. Amen. C'est une question de contrôle. Puis donc, pourquoi lorsque je suis la grâce, que le péché n'a plus de pouvoir sur moi lorsque je suis sous la grâce? Parce que Dieu me contrôle. Puis Dieu est la vie, Dieu est la victoire. Et donc, en me laissant diriger par lui, en me plaçant sous son contrôle, il me donne la victoire sur le péché. Christ en moi est vainqueur. Donc, toute l'expression d'être sous la loi versus sous la grâce, des fois, c'est mal compris comme étant, ben, eux autres, c'est une gang de légalistes, sont tous obligés de quoi faire. D'autres, on décide de faire ce qu'on veut. Ben, les deux, c'est deux formes différentes de « je décide de ma vie, je contrôle ». La bonne compréhension biblique, c'est « oui, c'est vrai, sur la loi, comme on va le voir dans Romains 7, ok, je veux pas faire ça, je veux pas. » Puis on peut le faire avec des bonnes intentions, mais c'est quand même nous qui contrôlons. On prend la bonne parole de Dieu, puis... Mais la bonne compréhension d'être sous la grâce, c'est d'être sous le contrôle de Dieu, se laisser diriger par lui. Et je reviens avec la force motivatrice qui est derrière ça. Je l'avais aussi souligné. Pourquoi je voudrais contrôler autant au nom de la loi ou au nom de la grâce quand j'ai peur? J'ai peur de perdre le contrôle. Puis, vous savez quoi, l'ironie? Plus on a peur de perdre quelque chose, plus on a peur de quelque chose, plus ça nous contrôle, puis plus ça s'éloigne de nous. Ah, j'ai peur que mes enfants soient comme ça. J'ai peur que ma femme, que mon mari, puis tout ça. Plus vous en avez peur, plus vos peurs vont se réaliser. Parce que c'est vous qui essayez de contrôler. On n'est pas fait. Dieu n'a pas conçu nos vies pour qu'on soit au contrôle. Quand on essaie, ça fait pire. Ça veut dire qu'on ne fait rien? Non. On se met sous le contrôle de celui qui peut faire de quoi. C'est là le bout que c'est la confiance, là. Dieu, avec mon enfant, tu veux que je te fasse confiance? Avec ma femme, avec mon mari, avec cette situation-là au travers, avec cette situation-là dans l'Église? Oui. Ça, c'est vivre sous la grâce. C'est ça le sens, c'est la foi. La grâce, ça se vit au moyen de la foi. N'est-ce pas qu'on a été sauvé par la grâce, au moyen de la foi? Mais on vit par la grâce, mais c'est au moyen. Il faut qu'on se confie en Dieu. Puis ça, c'est pas automatique. On a tout le temps une réponse automatique qui est de la chair. La chair, c'est moi qui contrôle. OK? La loi, ici, je peux le faire par la chair. Puis aussi, quand je laisse tout au laisser-aller, c'est la chair encore. Mais par la foi, je me place sous le contrôle de Dieu. OK? J'ai pas mal couvert ça la semaine dernière avec ce qui venait avant, mais là, on s'en va au verset 15. Parce que là, c'est bien important, vous allez voir, on a une espèce de transition où, évidemment, il y a un élément qui nous rattache à ce qui avait été dit avant. Ça dit quoi? Donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Retenez ce verset-là, puis lisons le verset 1. Que dirons-nous donc? Là, ben moi, j'ai besoin de tourner une page, là, mais chapitre 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Même expression, loin de là. Puis là, il explique toute l'idée de notre union avec Christ, là, mais peut-être que là, justement, le verset est mal divisé. Peut-être que le 2 aurait dû être à... Mais bon, on ne va pas s'ostiner là-dessus, mais comprenez-vous? Il amène une idée, puis il dit non, loin de là. Autrement dit, il amène une prémisse, puis il la réfute. Il dit, hey, si ça marche de même, ça m'a... Tu sais, autrement dit, si... S'il y a tellement de grâce, ben, je vais demeurer dans le péché. Ça veut dire que Dieu est tellement gracieux, puis ça va montrer comment Dieu est plein de grâce. Loin de là. Puis là, il explique toute l'union avec Christ. Mais ici, au verset 15, ça dit quoi donc? Pécherions-nous? Puis c'est pas demeurer dans le péché, c'est pécherions-nous. Fait qu'en français, déjà, on a une idée de ce que ça parle. Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Puis là, il dit loin de là. Ici, l'idée, c'est que même un acte individuel de péché étant sous la grâce, ce n'est pas excusable. Ça ne rentre pas dans la logique de dire, bon, tu sais, OK, verset 1, vivre complètement dans le péché. On s'entend tous que ce n'est pas en lien avec justement le fait d'être uni à Christ dans sa mort, sa résurrection, parce que le péché, ce n'est plus notre maître. Fait qu'on ne vit plus dans le péché. Tout le monde est d'accord là-dessus. On a fini les 14 premiers versets. Mais là, il dit, ouais, mais OK, un acte de péché. Est-ce que, tu sais, pécherions-nous, là, l'idée, c'est l'acte de péché. C'est pas tout le temps être dans le péché, c'est... Tu sais, des fois, on fait des péchés. C'est-à-dire, vu que, tu sais, je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, ben, tu sais, un petit péché par-ci, un petit péché par-là, c'est pas grave. Autrement dit, l'argument logique suivant. On s'entend, OK, on va pas laisser le péché régner dans nos vies. On va pas demeurer dans le péché. Mais tu sais, un petit péché par-ci, par-là, on peut bien l'excuser. Puis c'est là qu'il dit, non, loin de là, parce que c'est inconsistant avec ce que Christ a fait de nous. Puis là, on va voir après ça l'image qu'il utilise. Mais je prends le temps ici de m'arrêter parce que, dans le fond, ça répond à souvent un argument qui peut venir avec le concept de la loi versus la grâce. Quand on comprend c'est quoi être sous la grâce, c'est être sous le règne de Christ. Et c'est le règne de la justice, de la vérité. Et le péché, c'est l'indépendance. Rappelez-vous, on a vu ça. Fait que même un acte, c'est de l'indépendance. C'est dire, Dieu, ça, comme tu l'as dit avec humour, mais ah là, je pense que je vais être capable par moi-même. Ben, c'est pas... C'est loin de là, là, on devrait même pas penser de même. Là, on en fait une face parce qu'on sait justement que c'est inconsistant avec la vie qu'on vit. Donc, non seulement complètement le péché, mais même un acte de péché. Là, ça veut dire, hey, là, on va être après chaque acte de péché, puis on va capoter bien raide, puis on va être sur notre dos, on va être sur le dos des autres, puis là, on va partir d'une église de parano, là, où est-ce que... Non. C'est plus l'idée que on ne devrait jamais excuser le péché. On ne devrait jamais regarder le péché à la légère en disant « c'est pas grave ». Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'on est sous Christ. On est... Tu sais, c'est comme si tu dis... Je vais prendre deux images. J'ai parlé de Christ, de bon berger. « Ah, je vais juste aller un peu dans d'autres pâturages. » Non, lui, il m'amène dans les verts pâturages ou dans un mariage. « Ah, oh, je vais juste un peu être infidèle. Oh, juste une fois. » S'il y en a ici qui sont mariés, pensez-vous que juste une fois, c'est pas grave, puis non, tu sais, je veux dire. Fait que, comprenez-vous, parce qu'on est sous ce nouveau régime de l'esprit, on est maintenant unis à Christ. Donc, non seulement une vie de péché, mais les actes de péché sont inconsistants avec ce que nous sommes en Jésus-Christ. OK? Maintenant, j'aime tellement, le Saint-Esprit dirige toutes choses, puis, tu sais, la Bible s'explique par la Bible. Parce que là, il vient de donner sa phrase. Là, ça peut amener toutes sortes de réflexions. OK? Parce qu'il vient de dire, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, on comprend maintenant un peu plus ce qu'il veut dire par là, loin de là, parce qu'on vient d'expliquer pourquoi c'est inconsistant avec c'est quoi ça veut dire être sous la grâce, être sous Christ, puis bon. Mais là, quand il donne des explications, voici ce qu'il fait. Dans les versets 16 jusqu'à la fin, il prend une image. Une image d'une relation indissoluble. C'est drôle parce que dans le chapitre 6, il prend une de ces images. Dans le chapitre 7, il en prend une autre. Dans le chapitre 6, bien à la fin du chapitre 6, il prend celle de l'esclavage. Puis dans le chapitre 7, il prend celle du mariage. Quelqu'un va dire, y a-t-il une différence? Non. Hey, pensez pas ça, là, mais... Yeah, mais le monde va dire ça, hein? Mais écoutez, l'esclavage, c'est une relation d'autorité indissoluble. Le mariage, c'est une relation d'amour indissoluble. Mais il commence avec l'esclavage, parce que quelqu'un qui ne comprend pas bien le péché, puis qui est sous la grâce, il va voir ça. « Ah, mais là, je suis sous Christ, je suis son esclave. » Puis il reprend ces images-là, puis ensuite, il va prendre celle du mariage pour justement nous dire qu'on était marié à un mauvais mari avec la loi. Maintenant, la relation a été brisée par Christ, puis maintenant, on est marié à celui qui est grâce. OK? Fait que ça, c'est plus loin, mais... Là, il prend l'image de l'esclavage. Une relation indissoluble. Parce qu'il n'y a pas un esclave qui se lève un matin et dit « Ah, ben moi, je change de job. » Tu ne peux pas changer de job quand tu es un esclave. Ça, là-dessus, vous pourrez faire votre étude, mais un qui l'explique bien, MacArthur, sur le mot « serviteur » dans la Bible. Savez-vous que quand on a « serviteur » dans la Bible, je ne sais pas les proportions, mais 95%, c'est supposé d'être esclave. Doulos. Puis là, ben, c'est pas très politically correct, mais c'est le mot que le Saint-Esprit utilise. On a mis serviteur, bon, ben. Mais un serviteur, ça, justement, ça décide. Alors, moi, je suis tanné de servir ce maître-là, je change de maître. Un esclave, ça décide pas. Ben, nous, on est esclaves de Christ. Mais là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va contraster parce qu'il vient de parler de justice, puis de grâce, puis tout ça. Puis vous allez voir un peu plus en détail avec ce qu'on voit. Mais, dans le fond, si on prend le péché à la légère, c'est quoi le problème? C'est qu'on va devenir esclave de ce péché-là. Tandis que pour prendre l'autre image de l'autre bord, avec Christ, on est son esclave. Mais être esclave de Christ, c'est être réellement libre. Donc là, il va développer cette idée-là. Et tout ça découle de ce qui a été dit dans le verset 14 et après dans le verset 15 avec sa fameuse question là, qui se termine avec un « loin de là ». Et donc, c'est à comprendre du fait qu'étant sous la grâce, on est sous un nouveau maître. On ne devrait jamais excuser même un seul acte de péché. Et voici pourquoi, verset 16. Regardez bien. Là, il s'adresse à eux. Quand il dit « ne savez-vous pas », il s'adresse à ce qu'ils seraient déjà supposés de connaître, comme il avait dit avant. « Savez-vous pas que nous sommes morts avec Christ? » Okay? Fait qu'il dit, il leur dit des choses qui présument qu'ils connaissent. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la mort. » Autrement dit, ici, il donne un principe spirituel. « Celui à qui je me voue, je me donne pour lui obéir, je deviens son esclave. » C'est pour ça que le péché, c'est pas apprendre à les gens, parce que un acte de péché en tant que tel, peut-être que ça va pas me rendre esclave, mais je peux y prendre goût, puis je me mets sous la puissance de ce péché, puis je finis par en être esclave. Hein, les petits compromis mènent à des grands désastres. Et donc, ici, il donne le principe, puis il dit, avec le péché, ben, ça l'amène à la mort. Puis, avec Christ, ça amène à la justice, à la vie. OK? Donc, pourquoi un péché, c'est pas excusé? Parce que c'est me remettre sous le joug, sous l'esclavage de mon ancien maître, et qui plus est, déshonorer ou m'enlever de sous la bonne main de mon nouveau maître. Donc, autrement dit, comme on dit en bon québécois, ça n'a pas rapport. Tu sais, pour un chrétien, qu'est-ce que je fais avec aller sous mon ancien maître quand mon nouveau maître, qui est bon, il m'a libéré? Et donc, c'est ça. Puis Jésus, qui est le prince de la vie, qui lui-même est la vie, ben il nous dirige dans toute cette vie pour qu'on en jouisse, qu'on se réjouisse dans cette vie. Et donc, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc, le principe est donné au verset 17, au verset 16, pardon. Puis là, regardez ce que ça dit au verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Ici, il parle à des croyants, c'est évident. Là, il parle aux chrétiens qui sont à Rome. Donc, il remercie le Seigneur. Il dit, hey, vous autres, là, avant, vous étiez esclaves du péché. Puis on peut dire ça de tout le monde ici. Avant Christ, on était esclaves du péché. Notre maître, c'était le péché. Mais là, il dit, hey, je rends gloire à Dieu parce que j'avais obéi de cœur. C'était pas juste pour les apparences, c'était pas juste superficiel. C'est une obéissance de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Autrement dit, ils ont été affranchis par la vérité, par Christ la vérité. Et donc, les enfants de Dieu sont des gens affranchis. Sont des gens qui ne sont plus esclaves. Ils ont obtenu la grâce d'être libéré de ce tyran qu'est le péché dans leur vie. Et là maintenant, dans le fond, les versets suivants, c'est une unité qui suit. Il y a des principes qui sont donnés au début. Enfin, on a vu 14, on a vu 15 qui en déduit. Après ça, une explication, verset 16. Il rend gloire à Dieu au verset 17. Puis à partir du verset 18, il va parler, il prend les deux images de l'esclave du péché et l'esclave de Christ, puis il en donne les fruits. Donc, il donne deux chemins différents, deux côtés différents, puis il va donner les fruits de ce que ça donne. OK? Pourquoi il fait ça? Parce que il vient de parler d'être sous le contrôle, hein? De Dieu, t'sais, sous son contrôle, d'être sous la grâce versus être sous la loi, mais ça va m'amener à une place ou à l'autre. Puis là, juste avant d'y aller avec vous, rappelez-vous, comment je vais arriver à cette place-là? Ça commence avec un acte de péché. Vous avez déjà entendu comment quelqu'un est devenu alcoolique? Ça commence avec un verre. Comment quelqu'un, tu sais, s'engage sur tel chemin de destruction, que son issue, c'est la mort. Ça commence avec un acte. Donc, pourquoi? Parce qu'il se place sous l'esclavage. Ça commence de même. C'est pour ça qu'il dit que c'est ça. Même ça, c'est pas excusable. Ou je dirais plutôt, justifiable ou essayer de diminuer un peu, parce qu'on souvent on va minimiser quand c'est un acte de péché. Ah, ben moi, c'est pas comme si ça règne dans ma vie, c'est juste un petit peu. C'est plus facile à excuser, n'est-ce pas? Là, lui, il défait ce raisonnement-là en disant que oui, c'est un esclavage, on se place cette autorité, puis voici, maintenant, il va nous parler des fruits que ça donne. OK, vous êtes encore tout avec moi? OK. Elle va encore du jeu un peu? Bon, verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. OK. Verset 18, hein, c'est assez simple, là, ça n'a pas besoin de 36 000 explications. Étant affranchi du péché, depuis qu'on a reçu la vie par Jésus, hein, la vérité nous a affranchis. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus. Jésus, vous me connaîtrez, puis la vérité va vous rendre libre. N'est-ce pas que c'est vrai, quand on vient à Jésus, on a trouvé enfin la liberté, on a trouvé la vie, on a trouvé la paix. Bon, on est affranchi du péché. Ça va avec... Tu sais, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant besoin de tout d'aller en détail, parce que ça va avec ce qu'il disait dans le chapitre 6, verset 6, qu'on est mort au péché, puis on est maintenant ressuscité avec Christ. Comprenez-vous qu'il n'y a pas besoin d'y revenir? Tu sais, c'est quelque chose qui a pris le temps d'expliquer. On était affranchi, on est devenu esclave de la justice. Puis là, bon, il prend la parenthèse pour dire... Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Vous savez beaucoup que le Saint-Esprit a inspiré ça? Parce que notre chair a des raisonnements, notre chair a des façons de penser. Il dit là, je vous parle à la manière des hommes, là. Parce qu'on a tout le temps tendance à voir les choses humainement. Fait que là, je vous parle à la manière des hommes. Autrement dit, il nous parle de vérité spirituelle, mais il les met dans un langage humain, mais... Il parle de réalité spirituelle, tu sais, parce que il parle d'esclaves, puis il parle du monde des esclaves, mais tu sais, Dieu, là, c'est pas comme si c'était un tortionnaire, puis tu sais, on est son esclave comme si lui était, tu sais, fait qu'il dit, je vous parle de la manière des humains pour qu'on se comprenne, là, mais tu sais, Dieu, c'est pas, c'est comme, hein, on est son esclave comme d'une manière, là, comme on imaginerait un esclave, comprenez-vous? C'est vrai qu'on est esclave de Christ, mais je veux dire, c'est pas un esclavage normal, on est content, puis on veut, puis... Le maître est tout le temps juste bon, puis tout ce qu'il fait, c'est juste pour notre bien. Comprenez-vous que ça, c'est pas à la manière des hommes. C'est pour ça ici qu'il dit. Tu sais, il dit, on se parle pour se comprendre, autrement dit, mais on peut pas faire un parallèle exact avec ce que je vais vous dire, parce que Dieu est pas un tyran, puis avec lui, c'est pas un esclavage comme celle-là des humains. C'est pour ça ici que c'est écrit comme ça. Tu sais, puis il dit, la faiblesse de votre chair, autrement dit, tu sais, dans nos raisonnements, comment qu'on peut raisonner, tu sais, pour garder ça simple, puis se comprendre tout le monde. OK? Donc, de même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la justice. Ici, il y a quelque chose de vraiment d'important. On parlait tantôt d'un acte de péché. Rappelez-vous, on a commencé tout ça, pécherions-nous donc. OK? Comment ça arrive? Avec le véhicule qui est notre corps. Ayant livré vos membres, les membres de notre corps. Comment qu'on pêche? Rappelez-vous, on a déjà vu ça dans le passé. On pêche dans nos corps. C'est sûr, on peut pêcher dans notre esprit, avec des pensées d'amertume, de convoitise, puis tout ça. Mais on va... Puis de toute façon, c'est qu'on pense à ça dans notre cerveau, qui fait partie de notre corps. Puis souvent aussi, on va livrer nos membres, on va agir de cette manière-là avec notre bouche, avec nos oreilles, ce qu'on décide d'écouter, avec nos mains, ce qu'on fait. Bon. L'instrumentalité du péché, c'est à travers le corps. Puis là, ça dit, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Ici, c'est important les mots, parce que l'impureté, c'est quelque chose de visible et d'extérieur. L'iniquité, c'est quelque chose d'invisible et d'intérieur. Autrement dit, ça couvre tout le domaine du péché dans notre vie. Que ça soit de façon... Autrement dit... Vous avez livré vos membres au péché de façon évidente et de façon non évidente. De façon extérieure et de façon intérieure. OK? Puis ça dit, pour arriver à l'iniquité, autrement dit, ça le bâtit en dedans de nous, des forteresses, des choses à l'intérieur. Rappelez-vous, l'iniquité, c'est le mot pour le péché qu'on ne voit pas. Le péché sous-jacent. OK? Puis, là, après... Ben, il parle à la manière des hommes, là, parce que là, avec le péché, ça marche l'image, là. Parce que, tu sais, l'esclavage du péché, tu sais, c'est ça. C'est un esclavage, c'est pas un bon maître, puis on est misérable. Mais là, il parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de notre chair pour que tout le monde se comprenne. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Et quand on comprend la grâce, tu sais, je veux dire, c'est pas comme, c'est un esclavage, t'es obligé. Non, on est content. On est des heureux esclaves. On est des doulos. Il y a une image biblique pour ça parce que les doulos dans la Bible, c'est un type d'esclave qui, vu que son maître était bon, ça, vous allez voir, c'est Deutéronome quelque chose. C'est dans les 20, en tout cas. Ça dit, si un esclave a un bon maître, puis qu'il prend bien soin de lui, puis qu'il l'aime, ben il peut aller voir son maître et dire, hey, je veux devenir un doulos. Je veux devenir un esclave volontaire qui me place volontairement sous ton esclavage, parce que tu prends bien soin de moi puis de ma famille. Donc là, il prenait un poinçon, puis il marquait son oreille avec un poinçon, puis là, lui était reconnu comme étant un esclave volontaire. Ben nous sommes des doulos de Christ, c'est-à-dire, il est tellement bon, notre maître, on va le voir, on va dire, hey, la vie est tellement belle avec toi, tu prends bien soin de moi. Moi, je suis content de me livrer à tous tes désirs, à tout ce que tu veux. N'est-ce pas que c'est vrai aussi avec Christ? Fait que, tu sais, l'image n'est pas totalement erronée. C'est juste qu'on peut avoir une mauvaise image de c'est quoi l'esclavage avec Dieu, mais quand on comprend cette image biblique, ben ça prend tout son sens. OK? Donc, il vient de donner deux images. Il les a contrastées. Puis regardez maintenant les fruits qui en viennent. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Tu sais, autrement dit, vous étiez esclaves du péché, puis vous n'avez rien à faire de la justice de Dieu, de ses voies. D'ailleurs, on parle au monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça. Les gens, pour ceux qui rejettent Christ, je ne serai plus capable de faire ce que je veux, je vais être obligé de faire ça. Alors qu'ils ne voient pas la bonté de Dieu qui veut les libérer de ce qui est détruit, puis il veut leur donner ce qu'il est construit. Enfin, tu comprends? C'est ça ici, l'arrière-plan. Pour comprendre le verset 20, mais verset 21, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Autrement dit, vous étiez dans l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous arrangez vous-même à diriger votre vie, puis c'est un fiasco. Vous aviez le péché pour maître parce que vous vouliez être votre propre maître, puis ça donne quoi? La mort. C'est plutôt triste, hein, comme fruit. Bon, on peut voir toutes les choses qui seraient impliquées dans les choses dont on rougit, là. T'sais, destruction des relations, destruction des familles, la maladie. T'sais, des fois, on se rend malade avec des abus de différentes sortes ou des stress. Comprenez-vous? Des fruits dont on rougit. Mais la fin, c'est la mort. La mort, c'est la séparation des uns avec les autres, la séparation avec Dieu, la séparation avec le but pour lequel Dieu nous a créés. On a un sens. Vraiment, il me semble, ma vie, je passe à côté du but de ma vie. T'sais. C'est ça, la mort. T'sais, c'est la séparation de ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, le fruit de l'esclavage de la justice, en un mot, c'est mort. Okay? Mais maintenant, oh, ceux qui prennent des notes, mais maintenant. Les « mais Dieu » et les « mais maintenant » dans la Bible, là, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, étant affranchis, pas essayant tant bien que mal d'être affranchis, non, nous sommes affranchis. Étant affranchis, vous avez pour fruit, donc ça c'est quoi le fruit d'être un esclave de Dieu? La sainteté est pour fin la vie éternelle. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est tout ce qui est de Dieu. Des fois, on dit, tu sais, des fois, on peut avoir une vue non régénérée de la sainteté, genre, sainte n'y touche, puis moi je suis mieux que toi, puis. Non, la sainteté, c'est tout ce qui est du domaine de Dieu. C'est tout ce qui est dans la sphère là, de ce que Dieu est puis ce qu'il fait. Puis le reste, c'est le monde. Fait qu'on a pour fruit des choses de Dieu. La vie de Dieu. Le fait d'être un esclave de Dieu, ça donne du Dieu dans notre vie. C'est le fruit. Tu sais, non, mais c'est vrai. La sainteté, c'est le fait que Dieu, là, il est incomparable. Il n'est pas de ce monde. Puis quand on est dans sa vie, ben, on produit le fruit. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est incomparable. C'est Dieu, OK? Christ et sa vie. Puis ensuite, ça dit, et pour fin la vie éternelle. C'est comme, ça commence ici, là, on porte du fruit pour Dieu, quelque chose de saint, des choses qu'on a eues. Puis ça culmine dans le fait qu'on va être dans cette vie éternelle, dans cette félicité, dans la présence de Dieu. Donc, c'est un point de départ, ça culmine jusqu'à la perfection. OK, donc, parler de fruit, on peut le mettre en un mot, la vie. La vie. Ça vous fait-tu penser à un arbre dont on a parlé une couple de fois dernièrement à l'église? L'arbre de vie, hein? Puis que la vie, c'est une question... La question, Ben oui, la vie, la vraie vie, provient de la question qu'on se pose. Vie ou mort? Non pas bien et mal, mais vie ou mort. C'est ça ici. Pourquoi je me mettrais sous l'esclavage de Dieu? Parce que c'est la vie. Puis pourquoi même qu'un acte de péché, ça n'a pas rapport, puis que, évidemment, le règne du péché dans ma vie, c'est pas bon, puis, mais même pourquoi un... Parce que c'est la mort. C'est à l'antithèse de ce que je suis, de ce que Dieu est dans ma vie, c'est choisir la mort. Donc, ça m'amène à ceci, avant de lire le dernier verset, là. Mais tu sais, la fameuse question, là, de vivre sous la grâce versus sous la loi, là. Puis on a parti avec ça, puis on a vu toutes les déductions. C'est vraiment vivre sous la vie ou sous la mort. Est-ce que quelqu'un qui le dise d'une façon ou de l'autre, là, on l'a vu, moi, ça m'a... En fait, comprendre des affaires de le témoignage de Jérémie, parce que lui, était dans un milieu, justement, où est-ce que, ben, la grâce, mais voyez-vous, il n'était pas plus libre, il était dans la mort. Fait que peu importe comment qu'on appelle ce règne de la mort dans une vie, c'est la mort pareil. Pourquoi? Parce que c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui veut, alors que le règne de la vie, c'est par Jésus. Et ça me ramène, avant d'aller au verset 26, ça me ramène au verset qu'on a vu ce matin, tellement puissant verset des Écritures. Vous avez, moi, j'ai juste à tourner une page dans Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Tu sais, Adam, le fruit, tout ça. « À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? » C'est ça, vivre sous la grâce, c'est ça, les fruits qui en sont, c'est le règne de la vie. C'est choisir la vie avec toutes ses répercussions, toute sa beauté, toute cette libération. Puis ça, ça nous donne une nouvelle appréciation. C'est quoi la sainteté? La sainteté, là, c'est se mettre les deux pieds, là, dans le domaine de ce que Dieu a pour nous autres. La sainteté, c'est pas une espèce une espèce d'orgueil de regarder les autres de haut et dire que moi je fais mes choix. Non, c'est se réjouir dans le fait d'être là où Dieu veut qu'on soit. Dans sa grâce, avec le fruit qui vient avec. C'est beau la sainteté, c'est bon. Puis au lieu que les gens pensent, parce que souvent si on essaie la sainteté par la chair, c'est repoussant. Mais la sainteté, selon Dieu, c'est attirant. Là, attendez-vous pas que tout le monde va, si vous vivez dans cette sainteté, que tout le monde va jeter à vos pieds, parce que Jésus était parfaitement saint, puis il a été rejeté, pareil. Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient attirés par lui, par exemple. Parce qu'il était beau à voir. Puis là, je dis pas ça, évidemment, juste physiquement. Les gens voyaient Jésus, puis « Wow! Il y a une paix, il y a une joie, il n'est pas comme les autres! » Jésus avait cette parfaite sainteté, puis les gens disaient « Ça, c'est pas de ce monde. » C'est attirant. Ou sinon, ben, les gens les rejetaient parce que là, par religiosité et tout ça, bon, le cœur humain est en ski, là. Mais on se comprend. Cette sainteté ne laissait personne indifférent. Ça m'amène au fameux verset. Tu sais, des fois, on lit un verset, puis on le connaît, puis on le connaît pas tant que ça, là. Parce que, OK, qui ici a déjà témoigné à des gens du Seigneur, puis ils ont pas mal terminé avec... Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, c'est arrivé plein de fois. OK? Puis c'est parfait, je veux dire. Pas en train de dire qu'on n'aurait pas utilisé ça quand on prêche à quelqu'un, parce que c'est un beau verset qui nous amène le contraste entre justement le choix de la vie et le choix de la mort pour le salut. Mais ici, quand on comprend le contexte, l'arrière-plan de tout ce qu'on vient de regarder ensemble, parce qu'il vient de parler des fruits de l'un, des fruits de l'autre, OK? Puis il va avec un quart. Donc là, il est là avec sa conclusion, puis ça rattache avec tout ce qu'il aurait dit avant. Car le salaire du péché, c'est la mort. On dit ça souvent à un sauvé, puis un non-sauvé, pardon. Tu sais, puis il a besoin de comprendre, c'est vrai, s'il reste dans son péché, c'est la mort éternelle. Mais si on comprend en tant que chrétien, le salaire de même un péché, c'est la mort. Autrement dit, même un péché, ça va amener quelque chose dans ma vie qui me sépare des autres. Le salaire du péché, c'est tout le temps la mort. De tout péché, c'est tout le temps la mort. Autrement dit, c'est jamais bon. Fait que c'est sa conclusion, là, avec tout ce qu'il vient de parler, avec l'esclavage, puis le fruit, puis tout ça. Le péché, ça va tout le temps donner la mort. OK? Puis là, il dit, car, parce que c'est ça, tu te mets là-dessus, sous ce chapeau, ça va tout le temps donner la mort. Mais, un autre mais, il y avait même maintenant, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis encore là, on l'applique au nom sauvé, puis c'est extraordinaire, c'est vrai. Mais le don de Dieu, quand on choisit la vie, il y a quelque chose de Dieu qui se pense que, tu sais, c'est ça, le flot de la grâce, sa vie se manifeste et Dieu fait ce que juste Dieu est capable de faire dans nos vies. Quand on choisit la vie, Dieu embarque, Dieu fait des choses que juste lui peut. Il va donner une paix, il va donner une joie. On peut être attaqué, on peut être... Dieu, il nous rencontre là. Ça, c'est le don de Dieu. C'est un don. C'est Dieu qui donne ça. Ça vient pas d'ici-bas. Ça vient pas de nous-mêmes. Ça vient de Dieu. C'est un don. C'est la vie. Amen. Avez-vous des questions? Non? On va prier. On te remercie, Seigneur. C'est merveilleux, ta parole, parce que c'est pas en vain, Seigneur, que tu nous as dit des choses. C'est vraiment parce que tu nous ouvres les yeux sur les richesses merveilleuses et même incompréhensibles de Christ. Merci, Seigneur, que on a pu considérer ce passage. On vient de finir Romains 6. Quel passage des Écritures! Merci, Seigneur, que on trouve la vie, c'est les paroles de vie. Pourquoi? Parce que ça, tu nous révèles qui tu es. Tu es le Dieu vivant. Comme on l'a vu ce matin, c'est un beau menu, c'est extraordinaire, mais Seigneur, ça nous fait goûter comment toi tu es bon. Ça, on prend part à qui tu es, à ta grâce. On te remercie pour ça, Seigneur. Merci pour chacun ici, chacun dans cette église. Oh, Seigneur, il y a toutes sortes de morts, de toutes sortes de façons dans nos vies, dans nos relations. On te prie, Seigneur, que la puissance expulsante de la vie soit grande et efficace dans chacune de nos vies. La mort qui nous tire vers le bas, qu'elle soit vaincue par cette vie de Christ qui nous tire vers le haut, qui nous amène dans ce domaine béni de la sainteté, dans le domaine de Dieu, dans le domaine du beau, du parfait. On te prie, Seigneur, de faire ces choses dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.